Bonjour, nous voilà à la troisième partie de notre première étape de notre grand voyage en piraterie éducative. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'oppression écologique. J'avais appelé ça, lors de mes recherches, lors de ma thèse, j'avais nommé ça l'oppression écologique et c'était pour désigner ce que subit un enfant quand il est tout simplement assigné à une chaise, à une table, à une tâche, à un horaire dans une classe. Évidemment, ça paraît un peu dur là de parler d'oppression. Mais disons que on me raconte très régulièrement des histoires de classe qui font un peu froid dans le dos, comme par exemple cette maman qui me disait que il y a encore très très récemment, que sa fille n'était autorisée d'aller aux toilettes que 2 fois par semaine. Voilà, dans la classe, si elle devait demander une autorisation pour se lever de classe pour aller aux toilettes, elle y avait droit, mais uniquement 2 fois par semaine. On parle d'enfants de 7-8 ans, quoi. Alors, vous voyez, il y a toute cette assignation à la chaise, au bureau, au stylo, et quand même une logique d'oppression. Si on revient aux travaux de Foucault, par exemple, dans Surveiller et punir, il va bien montrer comment l'espace va être au service de la discipline. D'abord, on va parler de ces endroits qui sont clôturés. Évidemment, l'enfant ne peut pas se lever et dire, bon, ben, merci, bonsoir, je rentre chez moi, au revoir, quoi. Il lui faut des autorisations, il lui faut des signatures. Et de la même façon, la plupart du temps, le parent ne peut pas rentrer dans l'école comme ça, comme il veut, quand il veut. Il va falloir qu'il sonne, qu'il passe devant la secrétaire, qu'il demande l'autorisation d'aller en classe. Donc, c'est la plupart du temps, c'est donc un espace qui est clôturé. À l'intérieur de cet espace, les salles, les pièces sont spécialisées. Il y a le labo de chimie, la salle de musique, la classe de tel niveau, telle année, etc., etc. Donc, on ne va pas dans la classe qui ne correspond pas à l'horaire, au programme que l'on nous a assigné. De la même façon, à l'intérieur de la classe, il va y avoir des bureaux spécialisés. Et bien sûr, un enfant ne va pas s'asseoir à la table de la maîtresse, du maître. On pourrait s'arrêter longtemps, évidemment, sur le mot maîtresse et maître, mais en tout cas, de l'adulte, tout simplement. L'enfant ne va pas s'installer dans le bureau du directeur ou à la place de la secrétaire ou il ne rentre pas dans la salle des profs, etc., etc. Donc, en tout cas, si ça se fait, c'est toujours à une occasion spéciale et évidemment sur autorisation de l'adulte. Donc, l'espace donc est délimité, il est spécialisé, il est autorisé. Et puis, à l'intérieur de la classe, chaque enfant a sa place, a son bureau, sa chaise, ça constitue à peu près 1 mètre carré d'habitude, et il ne peut pas se lever de sa chaise à chaque fois qu'il veut. Même pour aller souvent jeter un papier ou ramasser quelque chose, chercher quelque chose dans son sac, il doit en demander l'autorisation. L'espace va même jusqu'à la façon dont il va modeler son corps. Évidemment, quand on écrit, on ne peut pas écrire en courant ou debout, donc il faut être assis. Et donc, à ce moment-là, le stylo nous tient non seulement par le bout des doigts, mais jusqu'au bout de nos orteils. Tout le corps est assigné à cette tâche d'écriture. Donc tout le corps est pris en charge par la consigne du professeur. Tout le dos du corps est collé à la chaise, tout l'avant du corps est sur la table. Le fait de tenir le stylo, ben, nous tient littéralement en fait, en action. Sous la baguette du chef d'orchestre de la consigne que le professeur a donnée. Et cette oppression-là va aussi concerner le temps. On a déjà parlé, il y a le calendrier, évidemment scolaire, hein, il y a aussi par rapport aux vacances et autres, mais il va y avoir aussi ben, le fait des vendredis soir, des samedis, des dimanches qui sont des jours de repos, ou tel jour. En fait, l'enfant ne se repose plus lorsqu'il en ressent le besoin, mais il se repose quand on lui dit de se reposer. Il pourra dormir un peu plus le matin quand l'école aura décidé que, il peut dormir un peu plus le matin. Sinon, il se doit d'être là. Et s'il n'est pas là, eh bien, il faut un mot d'excuse. Et il n'est pas rare que la secrétaire de l'école appelle les parents en disant oui, votre enfant n'est pas là, est-ce que je pourrais avoir une explication, une raison? Donc les parents, les familles ont à se justifier de pourquoi l'enfant n'est pas là et donner des raisons qui doivent paraître plausibles, valables à l'institution. Évidemment, cette domination temporelle ne marche pas dans l'autre sens. Si l'enfant sort 15 minutes en retard de l'école, le parent ne peut pas arriver à la secrétaire en lui disant « Je voudrais un mot de retard avec une explication valable et plausible » parce que normalement, l'enfant devait sortir à 4h30, il est 5h moins le quart, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais avoir un mot de retard. » Ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est toujours le parent qui se justifie vis-à-vis de cette pseudo-supposée normalité que sont les horaires d'école. Évidemment, il y a les temps de récréation, les temps de pause, les temps de repas. Tous ces temps-là sont imposés à l'enfant, et il y a même donc le temps de l'exercice, si on veut dire par rapport à ça. Quand un enfant passe un examen ou quand il fait un travail en classe, il va avoir 1 heure, il va avoir 30 minutes, il va avoir 15 minutes, peu importe, c'est un temps qui est donné par le professeur et l'enfant doit s'y tenir. Si il dépasse, on lui demandera de finir à la maison. Ou alors il sera mal noté parce qu'il n'a pas fini son exercice. Si il finit avant, alors on va lui en donner un autre. Donc le temps n'appartient plus à l'enthousiasme, à la nature de l'enfant. Le temps est totalement mis en orchestre par le professeur, par l'institution. Alors, quand on est dans cet environnement-là où l'espace ne nous appartient plus et où le temps ne nous appartient plus, parce que le geste qui doit être fait à tel endroit en un certain nombre de minutes, nous échappe complètement et doit obéir à la consigne, alors évidemment, l'enfant enregistre petit à petit que le temps et l'espace ne sont plus de son ressort. Ce n'est plus à lui à gérer, à organiser, à aménager le temps et l'espace disponible. Tout est prévu, tout est fait, tout est mis en musique par quelqu'un d'autre que lui. Donc c'est assez facile quand on accepte ça. On arrive là et des gens sont payés pour nous dire où nous asseoir, quelles feuilles remplir, en combien de temps, avec quel stylo, quelle couleur, etc., etc. Donc on se retrouve finalement dans un monde où finalement tout nous échappe et la liberté que l'on pourrait avoir va être remplacé par une forme, je dis bien une forme de sécurité illusoire qui donne ce sentiment rassurant que tout est prévu, qu'il ne va rien nous arriver. Et voilà, la classe est un endroit où il nous arrive rien, rien d'imprévu, pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, on pourra prétexter que cette classe-là a été faite pour protéger l'enfant, pour qu'il ne lui arrive rien. Mais malheureusement, ça a marché, il ne lui arrive rien. La classe est un espace clinique, une sorte de laboratoire où rien ne se passe que le professeur n'est pas amené, ou si ce n'est pas lui qui l'a amené, que le professeur n'est pas autorisé. Mis en programme, fait rentrer dans le calendrier hebdomadaire, etc., etc. Quand on joue dans la nature, par exemple, avec des amis, bien évidemment, c'est exactement l'inverse qui se passe. Il va y avoir une souris qui va partir sous une souche, il va y avoir un crapaud, il va y avoir la neige qui va tomber qui n'était pas prévue, il va y avoir bon, toutes sortes de choses, il va y avoir des réactions des amis qui ne sont pas formatés, il va y avoir. Donc, à l'inverse, la classe représente une mise en boîte, hein, une mise en forme qu'on peut qualifier d'oppression. L'oppression, et c'est un mot qui renvoie à la capacité de respirer, en fait. Hein, c'est, on peut, et donc à la capacité de bouger, à la liberté de mouvement, à la liberté d'espace, à la liberté de temps. Et l'enfant en est totalement, alors non pas privé, parce que s'il en était privé totalement, il serait en révolte. Mais l'enfant est organisé, pris en charge, pris en main par un programme qui découle du ministère. Et comme l'enfant occupe la place la plus basse dans la hiérarchie scolaire, l'enfant, on l'a déjà dit, n'est pas au centre du système, il en est à sa place hiérarchique indiquée, c'est-à-dire le plus bas échelon, eh bien, il se prend toutes les injonctions à la fois du ministre, de la commission scolaire, de l'académie, du directeur, du professeur. Et si le professeur décide de faire des examens tous les 30 minutes, eh bien, il peut y avoir un examen tous les 30 minutes parce que le professeur en a décidé ainsi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des jeunes qui, quand ils ne sont pas à l'école, sont totalement perdus parce qu'on leur a indiqué silencieusement que la parole de l'adulte est plus importante que la leur. On leur a indiqué aussi que s'ils avaient des envies ou des idées ou des choses qu'ils voudraient vraiment faire, que ce soit tout de suite ou plus tard, on va bien leur indiquer qu'ils peuvent se les garder, en fait, comme genre d'idée, parce que ça, ce n'est pas prévu. Alors, évidemment, on ne leur dira jamais, ah non, 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 tu n'as pas le droit de donner ton avis. On va toujours lui dire, oui, faudrait qu'on y réfléchisse, mais je ne suis pas sûr que la hiérarchie, la commission scolaire, l'inspecteur autorise que l'on puisse faire telle ou telle chose. Alors, nous, on n'est pas contre, mais tu comprends, il faut qu'on suive des règles. Et tout ça, tout ça, tout ça. Et l'enfant complètement enregistre tout à fait que il est normal d'avoir une vie subie et oppressive dans laquelle on n'a aucun contrôle sur son temps et on n'a aucun contrôle sur son espace. Et donc ça relève d'une forme d'oppression que l'on peut qualifier d'écologique parce que écologique renvoie au milieu de vie. En fait, hein, quand on parle de l'espace écologique, de l'environnement, de la grenouille, par exemple, ce sont les conditions de temps, d'espace, d'environnement, de nature qui permettent à la grenouille de se développer, de répondre à sa nature de grenouille. L'espace de l'enfant serait d'avoir un temps libre, un espace libre, mais on y reviendra évidemment là-dessus. Mais en classe, ce n'est pas ça qui a lieu, ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc l'enfant enregistre qu'il y a des chefs, qu'il y a des règles, qu'il y a des consignes et qu'il faut y obéir. Voilà. Et donc la mise en place du stylo, de la chaise, du bureau, de l'horaire, du calendrier, du programme, contribue à rassurer peut-être les parents d'une certaine façon, mais à expliquer à l'enfant que quelqu'un d'autre a prévu ce qu'il devrait faire de son existence et que c'est bien qu'il s'y soumette. Alors, je vous renvoie à vos souvenirs d'enfance, à vos souvenirs d'école. Et essayez de faire une liste, parce qu'on pourrait dire, oui, mais quand même, il y a des interstices, et que moi, j'avais la liberté d'eux. Je me souviens, on avait fait un projet où on avait choisi comment on allait aménager la cour d'école. Très bien. Alors, faites-vous une liste, tout simplement, en toute impartialité, de qu'est-ce que vous pouviez choisir. Et qu'est-ce que vous ne pouviez pas choisir? Qu'est-ce qui était en votre pouvoir et qu'est-ce qui ne l'était pas? Et essayez, vous allez voir, les listes risquent d'être pas mal disproportionnées. Voilà. Donc, je vous renvoie à vos souvenirs d'enfance et essayez de comprendre ce que j'appelle la liberté éducative en le regardant en creux par rapport à cet espace de non-liberté, d'oppression écologique qui est l'école, qui est l'espace classe. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vais vous demander de réfléchir à ça. Merci.